Avec l'invité du jour, c'est l'histoire d'une amitié qui démarre au détour d'un moment de rire survenu lors d'une dédicace. S'en est suivi de nombreuses aventures que nous avons adoré partager. Et je suis intimement persuadée que nous posons un regard éminemment bienveillant l'une sur l'autre.
La conversation avec Mathilde Allais.
Bonjour Juliette Rezzanini.
Bonjour Mathilde Allais.
Alors, petite, tu es fille unique, tu grandis en Auvergne auprès d'une famille italienne émigrée au XXe siècle. Ton grand-père ouvre un magasin de vêtements. Quels souvenirs tu gardes de cette enfance à leur côté ?
J'adorais ce magasin, en fait, oui. C'était un magasin de vêtements qui était connu dans toute la région. Les gens pouvaient traverser la région pour venir parce que mon grand-père offrait une cravate à chaque costume acheté ou une chemise. En fait, il faisait toujours un cadeau en plus de l'achat. Et ça, il m'a toujours dit, plus tu donnes, plus tu reçois. C'est comme ça qu'il est devenu extrêmement populaire et que le magasin a très très bien marché pendant des années.
Et alors, très vite, tu vas développer un contact assez facile, assez évident avec les personnes que tu vas rencontrer puisque tu faisais vraiment plein d'amis. Je me suis demandé si tu savais d'où te venait cette facilité justement de contact.
Je sais pas, je me dis quand on est enfant unique, après sans faire de généralité, peut-être soit on est dans sa bulle et on est un peu seul et contemplatif, ce qui est peut-être plus le cas de mon fils. Et moi, j'avais ce besoin d'aller vers les autres parce que je me sentais vraiment seule un peu dans ma famille. Donc, ma phrase d'entrée, c'était « Hey, tu veux être mon ami ?» Et la personne répondait souvent « Oui ». Et ça a marché comme ça, en fait.
Tu vas être partagée souvent entre tes deux parents puisque ton papa est amené à travailler à l'étranger. Tu l'accompagnes pendant ses voyages, justement, puisque tu as habité au Portugal, en Espagne. Et je me suis demandé comment tu t'étais nourrie et quelles influences avaient eu ces cultures sur toi et ta vision du monde.
Alors, le Portugal, c'est un tournant de ma vie. J'ai appris le portugais à l'âge de 14-15 ans. Et grâce à ça, j'ai pu rentrer au lycée international de Saint-Germain-en-Laye, un lycée absolument génial où tout le monde a une double nationalité, même une double culture. Et c'est ça qui m'a un petit peu permise de m'échapper du collège de Rueil-Malmaison, qui était un peu, on va dire, craignos. Dans la zone où j'étais, pour aller vraiment dans une forêt qui est le lycée international avec des gens qui viennent du monde entier. Et je pense que ma chance, je la dois. Ces 2 ans passés à Lisbonne auprès de mon père, ouais, ça a changé un petit peu mes études et ça m'a ouvert les portes de mes amis du lycée, que je vois toujours, en fait, de côtoyer des gens brillantissimes qui m'ont un peu tiré vers le haut.
Mais quand on parle, on a la sensation qu'il y a une grande insouciance et une grande joie de vivre les choses.
Je ne sais pas si j'ai une nostalgie du passé, parce que c'est vrai que j'embellis beaucoup mon enfance et mon adolescence, ou si j'ai cette capacité à me souvenir que des bons souvenirs. Souvent, j'ai un cerveau qui oublie un peu les périodes difficiles. C'est vrai que là, tu vois, quand je t'en parle, je vois la plage, le soleil, les amitiés fortes, le feu de camp et les chansons au coin du feu avec les mecs qui faisaient de la guitare et dont on était folle amoureuse. Voilà. Ça, c'est ce qui m'en reste. Après, je pense que je défends forcément un peu la réalité, mais et suite à ça, c'est ça qui a été ma chance, c'est que j'ai pu accéder à des écoles tellement bonnes que j'ai pu après avoir un parcours scolaire assez exemplaire.
Et quel est le point de bascule qui fait qu'à un moment, ta passion pour le théâtre est suffisamment forte pour que tu reviennes à Paris et que tu t'inscrives au cours Florent ?
Je pense qu'elle a toujours été forte. J'ai rencontré Serge Seguin, qui était notre prof de maths en seconde, qui était également prof d'impro. C'est lui qui m'a donné le goût de l'artistique. Parce qu'il me disait, bon, t'es moyenne en maths, mais qu'est-ce que t'es bonne en impro ? Et en théâtre, il me donnait les premiers rôles. Et puis des pièces qui allaient se jouer au Portugal, à Londres, enfin bref, j'avais le rôle d'Angélique dans Le Bourgeois Gentilhomme, et il croyait beaucoup en moi, et il m'avait dit, un jour tu seras comédienne, et je l'ai mis dans un coin de ma tête, évidemment j'en avais parlé à mes parents qui m'ont dit, oui, on verra après ton bac plus 5, et voilà, et puis je suis tombée un jour sur cette phrase de René Char qui est dans mon livre, qui est « Va vers ton risque, sers ton bonheur ». À te regarder, ils s'habitueront. Et en fait, en réfléchissant à cette phrase, quand on m'a proposé un CDI à Londres, chez Cartier, je me suis dit non, en fait, je veux pas de ça, je veux faire les cours Florent. Donc c'est revenu genre à 23 ans, 24 ans, me disant non, je veux pas me réveiller à 40 ans et me dire que je suis passée à côté de mes rêves. C'est cette notion de risque de me dire voilà, maintenant j'ai rempli mon contrat, j'ai un bac plus 5, c'est ce que mes parents voulaient. Et maintenant je suis libre, je suis adulte et de toute façon les cours Florent, je peux me les payer. Déjà j'avais mis des sous de côté parce que j'avais travaillé pendant un an chez Richemont, enfin la holding de Cartier, que j'avais bien gagné ma vie. Et en plus je me disais, bon, il y a toujours des petits boulots, on peut être serveuse, on peut faire, voilà, on peut faire des choses quand on veut se payer les cours Florent. Donc voilà, je me suis lancée.
Tu vas y faire une rencontre qui va changer ton existence. Tu passes une scène de se souvenir des belles choses réalisées par Zabou Breitman. Tu t'assis à côté d'un jeune homme qui s'appelle Paul Lapierre. Et vous passez sur une scène relativement plutôt intime. Paraîtrait-il que tu n'as pas choisi cette place par hasard? Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça?
Pour le coup... C'est presque du hasard, puisque c'est le prof qui m'a dit « il faut que tu apprennes cette scène ». J'avais un mois et demi de retard parce que j'étais encore à Londres, donc je suis arrivée en plein milieu de l'année. Pour valider ton module cinéma, il faut que tu passes cette scène devant François Florent dans 2 jours. Il me donne la scène, il me dit « choisis un partenaire ». J'avais même pas lu la scène que j'avais choisie, donc mon partenaire de droite, le plus proche. Et dans le métro, je lis la scène et je me rends compte qu'ils s'embrassent à la fin. Je me dis « mon Dieu ». C'était ma première scène de théâtre. Okay, comment on va faire ça? Est-ce qu'on fait semblant, pas semblant? Je me posais des tas de questions. Est-ce qu'on met la langue? Et puis voilà, puis on l'a joué. Et puis la magie a opéré tant et si bien qu'on n'a pas entendu que le prof avait dit quand même 3 fois coupé. Apparemment, la 3e fois, très fort, avec genre la classe hilarde. Et genre, on était un peu dans notre... bulle de sensations fortes. Et voilà, et puis aujourd'hui, c'est le père de mon fils, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, enfin voilà.
Charlie Chaplin disait « Une journée sans rire est une journée perdue ». Et il semblerait qu'avec Paul, depuis 20 ans, vous arrivez à rire, à vous amuser énormément, et que vous ne passez pas une journée sans vous amuser. Est-ce que c'est ça qui est primordial, justement, au sein de son couple et au fur et à mesure des années? C'est toujours s'amuser et rire ensemble?
Pour moi, parce que chaque couple est différent, oui. Moi, c'est un critère important. Je pense que c'est la personne qui me fait le plus rire au monde. Oui, je pense que c'est ce qui nous maintient, ça, c'est sûr. Même dans les moments difficiles, on a traversé aussi des périodes compliquées. Puis quand il y en a un qui bosse plus que l'autre, il y en a un qui est un peu à attendre, c'est compliqué, 2 artistes ensemble, de comédiens. D'ailleurs, tout le monde est très étonné qu'un couple de comédiens dure, parce que c'est vrai qu'en général, malheureusement, il y a les aléas du métier, l'ego sépare. Et puis, nous, je pense que c'est l'humour qui nous a sauvés et qui nous sauvera.
Tu vas aussi rencontrer, donc, pendant un casting pour une chaîne YouTube, Marjorie Nohan, avec qui tu vas tisser un lien très très fort. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu avais ressenti en la croisant pour la première fois?
Mais oui, parce qu'on est hyper différentes et elle m'avait un peu impressionnée parce qu'elle est... Maintenant, elle a beaucoup changé, mais je la trouvais moins souriante que moi en premier abord. Et donc, je me trouvais nulle et pas drôle parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on voulait se faire rire. Forcément, on se connaissait pas et qu'on allait créer une chaîne YouTube, donc faire des sketchs, donc être drôle. Et tu vois, c'est pas comme les inconnus qui se sont choisis. Nous, en fait, finalement, on s'est pas choisi, mais c'était pas plus mal parce qu'on pouvait pas faire meilleur casting. Mais du coup, la première impression, c'était de me dire, oh là là, je suis pas drôle à ses yeux. C'est la première chose que je me suis dite. Parce qu'elle est pas morte de rire dès que j'ouvre la bouche. Je me suis mis une pression toute seule. En même temps, on se présentait, il n'y avait pas de quoi faire de blagues non plus. Je la trouvais vachement plus connectée. Elle connaissait l'univers de YouTube, elle connaissait Natou, Cyprien. Non, moi, je ne savais pas qui étaient ces gens. Enfin, si tu veux, moi, je venais du théâtre classique. Je connaissais les acteurs de théâtre, les scènes classiques. Enfin, j'étais un peu... Je pense que pour elle, j'étais un peu un ovni. D'ailleurs, si elle pouvait écrire un livre sur mes réflexions. Enfin, je pense que j'étais un cas d'école, quoi. Mais bon, très vite, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu de la tendresse. Il y a eu un truc de sœur, quoi.
Donc, tu le sais, un des aspects innovants de mon podcast, c'est qu'en général, y a des proches qui ont souhaité témoigner de leur amour pour toi. Et notamment, donc, Marjorie Le Nohan, qui se souvient d'un moment qu'elle a vécu avec toi et qu'elle souhaite nous partager.
Je me souviens d'un voyage à Londres il y a assez longtemps où je pense que c'est... Alors souvent, c'est les voyages qui soudent les amitiés et je pense que pour nous, ça a été ça aussi. Quand on s'est retrouvés à Londres ensemble, on a pu beaucoup plus discuter, beaucoup plus se confier sur nos vies l'une et l'autre. Et Juliette, c'est quelqu'un de très, très, très empathique, quelqu'un qui écoute beaucoup, qui s'intéresse vraiment à ses amis, qui a vraiment à cœur de les aider, d'écouter leurs problèmes, d'aider à les résoudre. Et je pense que j'ai pris conscience de ça pendant ce voyage et on s'est soudés à partir de ce moment-là.
Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport au fait que de ce truc très empathique, du lien que tu as avec tes amis, justement?
Je crois que j'ai le goût des autres. D'ailleurs, j'adore ce film. Mais c'est vraiment cette formule, j'ai le goût des autres, je trouve les autres plus intéressants que moi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ces phrases qui changent la vie en mettant en avant les gens que j'aime. Je suis fascinée par ce que les autres vivent. J'ai l'impression qu'ils ont des vies... à 100 à l'heure, qui ont des caractères plus explosifs, des anecdotes de dingue. Moi, ça reste un peu sage parfois. Tu vois, je vais factuellement te raconter un truc. Les gens que j'aime, voilà, m'amusent beaucoup. Hein.
Tu as aussi le statut de coach au sein des stages de Cime Acting auprès d'Élise MacLeod. Je me suis demandé comment tu abordais et qu'est-ce que tu inculquais à ton tour à ces élèves.
Alors déjà, c'est pas des élèves, c'est des comédiens pros qui sont vraiment comme moi, en fait. C'est pour ça que j'ai mis du temps à avoir une légitimité dans ma tête, parce que Élise a fait appel à moi, j'ai fait « Oh, waouh, mais c'est des gens, en fait, qui bossent comme moi ». J'ai une spécificité, c'est l'impro, et c'est savoir un peu, justement, ce côté, voir dans l'autre ce qu'il a de super. J'arrive vraiment à trouver un angle pour que l'autre ressorte en s'auto-surprenant. En fait, le talent, il l'a en lui, je lui apprends rien en fait, c'est lui qui l'a ou elle, mais j'arrive à faire en sorte qu'il le montre, je sais pas, aucune idée d'où ça me vient, le goût des autres encore une fois.
Et justement, Élise MacLeod nous a dit en quoi tu as une approche si singulière avec ton travail.
Déjà c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, qui travaille sur plusieurs niveaux. Elle a un passé d'improvisation, donc elle amène ça dans son travail. Elle est très drôle. C'est quelqu'un qui sait faire la comédie et dans la vie est très drôle. C'est une bosseuse. Elle bosse dur et elle en vit. Elle a très faim. Et aussi, c'est quelqu'un que je trouve fascinant parce qu'elle peut jouer plein de personnages parce qu'elle peut être très, très belle. Et c'est pas une insulte, mais peut-être moche aussi. Et pour moi, ces comédiens-là, qui ont des visages comme ça, sont absolument magnifiques et qui ont une palette très large.
Non, moi, j'ai un goût des moches aussi. J'ai absolument pas construit ma carrière sur mon physique. Déjà, parce que je pense pas me définir comme... Alors, avec le temps, j'apprends à accepter des compliments. Très bien. Mais ça m'intéresse pas. Pour moi, le physique ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est pas un mérite. Quelqu'un a un beau physique, tant mieux pour lui, mais c'est pas sa faute. C'est la phrase de Sonnen d'ailleurs dans mon livre. Non, ce qui m'intéresse, c'est la transformation. Et ça me frustre peu. En France, souvent, on te met dans un emploi, sauf Stéphanie Pilonka, qui arrive à voir en moi l'inverse de qui je suis dans la vie et qui va me donner des rôles de caissière à grande gouaille, de tatoueuse, bad girl, de fille genre vraiment dure et tout. Enfin bref, c'est pour ça que mes comédiens préférés, c'est plus des Américains comme Meryl Streep ou comme DiCaprio, parce qu'ils se transforment. DiCaprio, pareil, il peut être magnifique comme très moche. Et c'est hyper intéressant d'être moche. Meryl Streep, c'est pareil. D'être moche dans le sens où pas avoir peur de se salir, pour pas faire un jeu beau et lisse, pas avoir peur de pleurer. Et je me souviens sur Demain nous appartient, parfois j'avais un peu normal quand tu pleures, la mort au nez, et puis je me demandais, coupé, attends, on va lui essuyer ça. Je te dis, mais non, c'est naturel. En fait, j'aime bien les trucs naturels, tu vois, j'aime bien avoir le mascara qui coule un peu, la coupe de cheveux du réveil, mais vraiment du réveil et pas la belle coupe. Genre, bon, parfois je demandais pas de maquillage. Parce que je trouve ça brut, intéressant, et je pense qu'il y a un prof qui m'avait fait une réflexion, ça ne se souvient même plus, d'ailleurs j'en ai parlé, qui m'avait dit, toi ça se voit que tu n'as pas trop souffert dans la vie. Quand j'avais 25 ans, je commençais à me dire, ça m'avait vexée. J'étais là, ah ouais, ok, donc en gros tu es en train de dire que je suis pas intéressante, dans ma tête c'est comme ça que j'ai travaillé. Et du coup, je suis allée au théâtre faire que des rôles, m'aider, qui tue ses enfants. Je ne voulais que des rôles qui étaient un peu anti-héroïne, pour montrer que j'en avais sous le capot et que j'étais intéressante. Et puis surtout, je me disais, ce sera toujours plus simple. C'est ce que Valérie Bonneton m'avait dit sur Fais Passif. Et bien ça, elle me dit, ce qui coule avec la mocheté, entre guillemets, la laideur, c'est que ça vieillit bien. Et ça m'a fait tellement rire. Je m'étais dit, mais yes, en fait, carrément, quoi. tu vois.
À de nombreuses reprises, donc tu as également croisé la route de Stéphanie Pilonka, qu'on évoquait tout à l'heure, et elle a souhaité aussi nous dire en quoi tu es une comédienne à part.
Elle amène des émotions là où on les attend pas. Je me souviens pour Le Souffle du Dragon, un film sur le cancer du sein où elle jouait la camarade d'un collègue de travail, d'une cancéreuse qui vivait un moment difficile dans sa vie. Elle a réussi à apporter de l'émotion et à improviser des choses qui n'avaient pas lieu d'être et qui n'étaient pas suggérées. Et ça, c'est plutôt chouette et inattendu, et c'est un bon moment.
Oh, mais c'est parce qu'elle m'a laissé le faire que j'ai pu le faire. Donc, merci à elle de nous laisser cette liberté-là. C'est pour ça que c'est un tel bonheur que de tourner avec Stéphanie. Enfin, je veux dire, je souhaite à tout le monde de pouvoir travailler avec elle. Je ne vais pas trop le dire parce que c'est un peu ma réalisation. Non, je plaisante. Mais en vrai, genre, si je pouvais signer avec elle, avec Sandra Perrin, enfin voilà, avec... Nathalie Lecoultre, enfin ces trois femmes là avec qui j'ai tourné récemment, oui, quel beau. Mais et Gabriel Julien-Fay, c'est en fait ces réalisateurs qui sont clients de ce que tu proposes, qui sont assez ouverts sur leur imagination, parce qu'il faut savoir que soit ils ont écrit, soit c'est une commande, mais ils ont pensé le personnage, ils ont fait des films, ils ont imaginé des déplacements et tout, et toi tu leur fais des propositions, peut-être que tu viens tout péter dans leur tête. Il les accueille. Je trouve que c'est une grande ouverture d'esprit que de se dire oh, « Mais attends, elle m'a fait ça, je suis surprise, je prends. »
Et on parlait des hommes, on parlait de Gabriel Julien, la Ferrière, avec qui tu partages de nombreuses soirées théâtrales. Tu lui fais découvrir notamment ton ami Alexis Véchalik. Qu'est-ce qui t'attend plus dans sa personnalité à lui ?
Il est cool, j'ai l'impression que c'est un ami... Il ressemble à mes amis du lycée, je sais pas. Gabi, il est ouvert, il est détente, il est curieux. En fait, il y a une part d'enfant. Je pense que je suis proche des gens qui ont gardé leur âme d'enfant. Et je trouve que lui, il l'a gardé.
Il a justement vécu un moment très particulier avec toi, dont il se rappelle et nous le témoigne avec le plus grand des plaisirs.
Dans mon deuxième film de cinéma, tourné en 2013, elle a deux rôles, c'est-à-dire elle fait... un tout petit rôle, puis au montage en plus on a un peu mais enfin elle fait une réceptionniste dans une boîte, mais il y a aussi son ventre parce qu'elle était enceinte de son fils, et donc moi j'avais besoin d'un plan où la main de Guillaume Tonquédec touchait le ventre de sa femme enceinte, donc c'était le ventre de Juliette avec son fils dedans, et son fils a d'ailleurs eu la gentillesse de taper dans le ventre au moment où la main passait, donc j'ai un magnifique plan avec le bébé qui bouge.
Non, mais en plus, il a dirigé mon fils, c'est son premier... Parce qu'il a dit, bon, petit bout, je ne sais pas comment tu vas t'appeler, mais ce que j'aimerais, c'est que tu bouges, que ça fasse une vague, quand Guillaume de Tonquédec passe la main, juste après, je veux que tu fasses une petite vague. Il lui parle, vraiment. Et moi, je ris. Je dis, mais tu crois que ça marche comme ça, un enfant ? Il me dit, mais qu'est-ce qui fait bouger un bébé ? Je fais, à part du sucre et encore... Et on était loin de la table régie. Il fait, non, non, mais il m'a entendu, il va le faire. Action. Guillaume passe sa main et vous, la vague. Mais incroyable, le petit genou et le petit pied. Ah, il me dit, il avait les larmes, il me dit, c'était magnifique. Bon, on l'a refait. Petit bouchou, je ne sais pas comment tu vas t'appeler. J'aimerais bien que tu refasses exactement la même chose. Parce qu'au cinéma, il lui explique, hein, on fait plusieurs fois les mêmes prises.
Gabi,
franchement, mais do it. Action. Et on détruit avec passe la main et le petit genou, le petit pied. Il ne faisait jamais ça. Il pouvait bouger, mais c'était dans des moments toujours en plein milieu de la nuit, souvent. Mais jamais. Et je pense qu'il l'a fait deux fois, je suis sûre. Je me demande si la troisième, je ne sais pas si la troisième a marché, mais il a deux prises. Ah bah, voilà. Je me dis, c'est fou.
Et donc, la plupart des auditeurs certainement te connaissent sous le nom aussi donc, de Sandrine Azzari, car tu as joué dans la série Demain nous appartient, diffusée sur TF1. Justement, moi, je me suis demandé, quand on entre dans une série comme ça, est-ce que tu n'as pas vécu ces années-là avec une grande inconscience et insouciance, notamment sur l'ampleur que ça allait prendre ? La première année, est-ce que tu savais que tu t'embarquais dans une grande aventure comme celle-ci ?
Absolument pas. D'ailleurs, on pensait que c'était... comme j'avais fait une tape donc à la maison que j'avais envoyée, on ne m'avait pas expliqué ce que c'était comme projet. Et je l'ai su par l'agent de Charlotte Valandré, à l'époque, qui m'a croisé un anniversaire, donc le truc improbable, qui m'a dit « Ah, bah félicitations !» pourquoi ? Bah, t'es la femme de Charlotte Valandré dans la série. Je fais, ah bon ? Donc moi, je ne savais même pas que j'étais prise. Qu'il me l'annonce, donc ça, super. Il me fait, t'es prête pour faire tes valises pour 7 ? Je dis, c'est où 7 ? Ah bon, mais c'est pas à Paris le tournage ? Il fait, ah ouais, mais toi, t'es à la ramasse. Donc déjà, j'avais pas compris que c'était loin de Paris. Et puis, je m'étais dit dans ma tête, bon, c'est 2 mois, ce qui m'a arrangé plus tôt, parce qu'Oscar avait 4 ans et demi. Voilà, c'est le temps d'un été. On va passer un été là-bas. Oscar va venir pour ses vacances, trop bien. Et après, je vois que ça se prolonge. Je fais, ah, mais pour combien de temps ? Et là, la productrice me dit, ah, oh, bah, ça peut durer comme Plus belle la vie, quoi. Ça peut durer 10 ans. Et je fais, ah, d'accord. Et là, je commence à paniquer, à me dire, à la fois, c'est génial, et à la fois, mais qu'est-ce que je vais faire de mon enfant ? Je trouvais pas ça très confort, en vrai. Et puis après, finalement, j'ai décidé de l'installer, de le scolariser à 7, ce qui a complètement changé ma vie, parce que du coup, tout mon petit monde était au même endroit.
Une personne aussi qui est constitutive de cette expérience, ça va être donc Solène Hébert, qui joue ta fille, ta sœur. Elle nous a témoigné à quel point vous étiez éminemment différente, que quand elle te voit, elle te voit un peu comme un ovni rempli de gaieté, de bonheur, que tu l'as aussi aidée à vaincre une timidité un peu maladive qu'elle avait. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce lien que tu as avec elle ?
Je sais pas ce qui s'est passé, ça a collé quoi, ça a collé, c'est vrai qu'on est très très différents. La première fois qu'elle m'a vue, j'étais avec mon portable en train de filmer les décors parce que je voulais faire une vidéo YouTube sur mon arrivée à ce vlog où je parlais toute seule à la caméra, habillée en vert, vert fond vert, avec un chapeau. Elle a dû se dire, oh mon dieu. Et c'était tout l'inverse, c'était la discrétion même, l'élégance. Solène, elle pète des arcs-en-ciel, quoi. Enfin, je veux dire, tout est beau chez elle. Si, je sais pourquoi. Parce que on a fait une première journée incroyable, c'est-à-dire qu'on s'est levés toutes les deux à 6h30 du matin, qu'à 6h45, on était sur le plateau, et qu'en fait, la journée, elle a duré jusqu'à 3h du matin. En fait, on a fait les trois plateaux, et qu'à l'époque, c'était pas rodé. Et nous, on pensait qu'on était dans un vortex où ils allaient jamais nous ramener à l'hôtel, tellement on était de tous les plateaux. Et donc, il y a eu le craquage, cette fameuse scène de nuit, c'est d'ailleurs qui correspond à l'explosion du bateau. Donc, la première scène de DNA avec Ingrid, où en fait, comme il fallait rire, je leur faisais des blagues pour faire la première prise naturelle, genre un vrai rire, mais il y avait la fatigue qu'elle est avec. Et on était hilarants. Ingrid, je l'ai rencontrée, moi qui pensais que c'était une femme impressionnante, enfin, elle est impressionnante, mais en fait, je l'ai trouvée tellement drôle et accessible et déconne, quoi. Vraiment, voilà, trois copines. Et ça s'est fait, là, le premier jour.
Solène a voulu témoigner cet amour si fort à ton égard.
On se définit un peu en sœur parce que c'est différent. C'est pas la même chose qu'une amitié. Des amitiés, on en a plusieurs qui sont plus ou moins fortes, mais dans le sens où il y a un rapport entre nous qui est extrêmement sain et fort. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les choses qu'on traverse, quelle que soit la situation, on sait qu'on peut compter l'une sur l'autre et on sait qu'on n'est pas jugé, on sait qu'on peut être nous-mêmes, parler librement. Il n'y a qu'un moment de composition ou de même se demander comment aborder tel ou tel sujet ou est-ce qu'elle va mal le prendre si je fais ça. Est-ce que en fait, quoi qu'il arrive, on sait que notre amour, il est là, quoi, et qu'il ne dépend pas de facteurs extérieurs. C'est juste un lien évident. C'est pour ça que c'est de l'ordre de la sororité. C'est que c'est quelque chose qui est indéfectible, quoi.
Et avec le recul des années, là par exemple, tu dis qu'est-ce qui restera de moi quand je vais mourir ? Qu'est-ce que tu pourrais dire de ça aujourd'hui ?
Alors déjà, mon père m'a dit, tu peux être enterré au Père Lachaise quand t'as été publié, quand t'as écrit un livre. J'en ai écrit 2. Là, je me dis, waouh, je vais pouvoir être enterré au Père Lachaise. Pardon, le Père Lachaise, pour moi, c'est une relation très intime parce que je suis née à Paris dans le 11e, à côté du Père Lachaise. Et mes parents, c'était me promener au Père Lachaise et c'était mon premier terrain de jeu, quoi. Je jouais au foot au Père Lachaise. Pas vraiment, voilà. C'est peut-être un peu bizarre, c'était dans un cimetière, mais du coup, moi, je garde. C'est comme une consécration, le Père Lachaise, en fait. Bon. Ah, c'est la classe. Bon, dans ma tête, bah, y a les plus grandes personnalités. Ouais. Enfin, tous les écrivains, t'as même Jim Morrison, quoi, enfin, c'est ouf. Ce qui restera de moi, j'en sais rien. Là, je suis en train de revenir à des valeurs un peu plus... genre les amis du lycée.
Simple.
Mon fils.
Ouais, des choses vraies.
Des choses qui comptent, vraiment.
Et alors là, l'heure est grave, c'est l'heure encore des surprises pour toi.
Oh mon Dieu.
Auquel tu... Il y a quelqu'un qui a vraiment tenu à te laisser un message. Tu l'écoutes, tu m'en parles après.
Juliette Trezanini, ici Paul Lapierre, on se connaît depuis un bon petit moment maintenant. Ben, je t'embrasse, d'amour. Je suis très heureux que tu puisses raconter ta life dans cette interview et puis que tous tes potes aient envie d'y participer. J'espère que tu passes un bon moment et je te dis à très vite, forcément.
Coucou maman, bah j'espère que tu vas bien. Je pense très fort à toi, je t'aime.
Non mais ça c'est très fort de ta part parce que c'est des personnalités qui sont pas extraverties et je pense que c'est pas évident pour eux de,
oui.
de s'ouvrir.
Et ben merci beaucoup. Juliette Trezanini.
Merci à toi, c'est trop bien. Je suis ravie de cette émission. On peut pas faire toutes les émissions sur moi. Non, je peux.
Et bah merci encore pour tout. Voilà, t'es une personne qui compte beaucoup pour moi. Je le dis à titre personnel et j'espère te retrouver toute une vie aussi dans les années à venir. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis.
J'adore.